Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de À l'écoute des investisseurs pour le 21 janvier 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Alors Martin, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la semaine dernière?
Bien, la première nouvelle économique qui a retenu mon attention, c'était les chiffres d'inflation au Canada. On a eu un chiffre d'inflation qui était légèrement en hausse par rapport aux lectures des mois précédents, à 2,5% d'inflation année sur année. La raison, bien, on se souvient que l'année dernière, le gouvernement avait accordé un rabais de TPS sur certains produits et services. Ça faisait donc que les prix l'année passée avaient artificiellement baissé. Et donc là, on compare cette année avec le retour de la TPS sur ces mêmes produits-là. Donc, on a une légère hausse de l'inflation. Rien de dramatique, on demeure dans la braquette là, entre 2 et 3 de la Banque du Canada. L'inflation de base est quand même sortie à 2,2, là, tout à fait en ligne avec les attentes. Donc ça va bien. Hier, on a eu une journée en bourse quand même un petit peu plus mouvementée. On a eu des baisses de marché en grande partie en raison du retour de la rhétorique de tarifs et de menaces, l'annexation du Groenland, les tarifs et tout ça. Là. Donc quand on amène de l'incertitude face au marché, les investisseurs n'aiment pas ça. Donc on a le TSX au Canada qui est cette semaine en baisse de 0,4%. Ceci dit, là, hier, on a quand même le secteur aurifère là, qui a vraiment beaucoup monté là, un peu pour amoindrir la baisse du TSX. C'est le seul secteur là, qui performait bien. Aux États-Unis, où il y a, tu sais, le secteur des matériaux est très petit là, dans l'indice S&P 500, une baisse de 2,4% sur la semaine. On est donc à moins 0,8 sur l'année en cours sur le S&P 500. Le Nasdaq en baisse de 3,2. Les grands titres technologiques là, qui ont subi un revers un petit peu plus prononcé. 1,3% de baisse pour l'année. Et du côté Europe-Asie, là, l'indice MSCI Europe-Asie-Australie en baisse de 1%, donc moindre, et puis en hausse de 3,2 année à jour. Donc le Canada et le reste du monde se performent quand même assez bien. Les marchés américains en légère baisse. Du côté des taux d'intérêt, relativement stable, légère hausse aux États-Unis, là, donc encore là, toutes ces rhétoriques de tarifs et tout ça, là, de conflits, ben, ça amène de l'incertitude. Le marché n'aime pas ça, donc les obligations américaines ont aussi baissé en valeur. Donc le taux d'intérêt des obligations américaines a augmenté à 4,29. On était à 4,17 la semaine passée. Puis le dollar canadien en hausse légèrement à 72,2. Puis ça, c'est intéressant là, parce que généralement, l'incertitude signifie hausse du dollar américain, là, historiquement. Et puis là, ben, étant donné que c'est un petit peu comme les tarifs, c'est un petit peu les États-Unis, le monde est fâché un peu contre les Américains, on dit. Puis c'est. Et bon, on voit le dollar américain le faiblir un petit peu. Là, ça n'est plus autant le refuge que ça l'a peut-être déjà été dans le passé. Il y a quand même une couple de bonnes nouvelles à travers tout ça. Là. Il y a un titre que beaucoup de nos clients détiennent, Savaria, compagnie du Québec, donc encore plus fun de célébrer. Un nouveau sommet historique là, qui a été atteint même hier, malgré. Il a terminé en baisse un petit peu hier, là, mais durant la journée, il a atteint un nouveau sommet historique. Donc, tant mieux pour cette belle entreprise du Québec.
Mais merci, Martin, de terminer sur une note positive. Je pense qu'on a besoin d'un peu de positivisme aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai glissé un mot et j'ai dit qu'on allait parler des comptes enregistrés, des chiffres pour 2026. Donc, c'est sûr qu'on veut faire un rappel à tout le monde. Il faut contribuer à son REER avant la date du 2 mars. Donc, ben, on veut parler CELI, REER, CELIAP et vraiment passer à travers parce qu'on a déjà beaucoup de questions en début d'année. Ça commence très rapidement au mois de janvier. Donc, on va prendre le temps de passer à travers les principaux changements et les rappels utiles. Donc, on va commencer justement avec le CELI.
Donc, le plafond pour 2026 est toujours à 7 000. Donc, c'est la même chose que l'année passée. Il n'a pas augmenté cette année. C'est prévu que probablement l'année prochaine, il va avoir un petit saut. Mais pour l'instant, on est en 2026. Le chiffre qui nous concerne, 7 000. Si on n'a jamais cotisé à son CELI et qu'on avait 18 ans en 2009, là, évidemment. Donc, si on a le droit cumulatif de CELI, 109 000. Petit rappel, le CELI, ce n'est pas comme le REER, là, les données qui déterminent notre droit de cotisation sont acheminées par les institutions financières à l'Agence du revenu aux alentours du mois de février. Donc, si on va aujourd'hui sur le site de l'Agence du revenu, il est indiqué notre droit au 1er janvier 2026. Ce montant-là, il y a une mise en garde sur le site d'ailleurs, ne tient pas compte de toutes les transactions qui ont été faites en 2025. Donc, faites bien attention. Si vous allez sur le site de l'ARC et ça dit, tiens, ah, j'ai le droit de 20 000, je cotise 20 000, ça dépend. Là, assurez-vous. Plutôt, envoyez-nous la capture d'écran, parlez-nous, puis on va vous guider là, à savoir comme il faut s'assurer qu'on ne dépasse pas le montant limite. Et dans le doute, il n'y a pas de presse, attendez donc au mois de mars, puis là, on va être sûr d'avoir le bon chiffre.
Exactement. Et l'autre chose, c'est que à réfléchir et à penser, si on a, exemple, sorti 20 000 de notre CELI en 2025, on peut remettre le 20 000 plus le nouveau 7 000 en 2026.
Exact.
Donc, ça, c'est bon pour le CELI, assez simple. Et aussi, une autre question que j'ai souvent, que peut-être les clients oublient, quand on sort de l'argent d'un CELI, on ne paye pas d'impôt.
Il n'y a pas d'impôt.
Exactement. Fait que les gens oublient un peu. Et l'autre chose qu'on oublie, c'est que quand on décède avec notre CELI, mettons que notre conjoint est décédé, et bon, je décède, toi, t'es déjà passé, ça fait un bout de temps, l'argent dans mon CELI est remis à ma succession sans impôt
exact.
Aussi. Donc, c'est quand même un outil qui est...
Le compte s'appelle un compte d'épargne libre d'impôt. Donc,
oui.
Ça ne s'appelle pas un CELI, ça s'appelle un compte d'épargne libre d'impôt.
Exactement. Bien dit, Martin. Donc, c'est quand même un outil qui est assez fort et puissant. Donc, parlez-nous-en. Passons maintenant au REER. Donc, cette période-ci de l'année est généralement la période des REER.
Exact. Donc, comment fonctionnent les cotisations REER? Donc, si on veut vérifier quel est notre droit de cotisation REER déductible pour l'année 2025, on va aller vérifier notre avis de cotisation fédérale. Ça va nous dire quel est notre droit à nous. Il est différent pour tout le monde. C'est basé sur 18 % de votre revenu gagné. Donc, le terme gagné est important. Et donc, jusqu'à un maximum de pour 2025. Donc, on sait qu'on cotise dans notre REER jusqu'au 2 mars. Ça s'applique généralement à l'année précédente pour l'année 2025. C'était au maximum 32 490. Donc, si j'ai accumulé plein de droits inutilisés dans le passé, je peux peut-être mettre un montant beaucoup plus élevé que ça. Mais si je suis un très haut salarié puis que 18 % de mon revenu donne plus que 32 490, c'est ça le maximum. Donc là, on est aussi en 2026. Donc, je pourrais, si j'ai déjà maximisé mon REER pour 2025, je pourrais tout de suite cotiser dans mon REER pour 2026. Quel est le montant maximum si mon salaire, là, 18 % de mon salaire me donne plus que le maximum? C'est 33 810. Donc, c'est quand même pas mal. Ça prend un bon revenu pour se rendre là quand même, mais c'est le montant maximum. Et oui, c'est permis de cotiser tout de suite dès janvier. Et donc, on va déduire dans notre rapport d'impôt 2025, on va dire, oui, parfait, j'ai mis 60 000 dans mon REER. Par contre, je déduis seulement le montant pour 2025, puis j'aurai déjà cotisé dans mon REER, puis je pourrai le déduire l'année prochaine en faisant mon rapport d'impôt 2026. L'Agence du revenu aura déjà été avisée que l'argent est déjà dans mon REER pour l'année en cours.
Exactement. Donc, les 60 premiers jours de l'année, on a le choix. Moi, je conseille souvent aux clients de vérifier leur avis de cotisation. Ou d'aller sur l'Agence de revenus du Canada. Et encore, je vous répète et on vous répète, la dernière date pour la contribution 2025, c'est le 2 mars 2026. Mais en général, on essaye de vous rejoindre toutes et de vous faire un rappel individuel.
Qui sera celui qui va nous appeler en 4 heures le 2 mars cette année?
Le regagnant.
Le ou celle.
Oui, chaque année, il y a un gagnant du prix. Excellent, Martin. Et le CELIAP qui reste, c'est sûr, très populaire depuis une couple d'années chez les premiers acheteurs.
Ben, petit rappel du fonctionnement du CELIAP un petit peu pour accumuler des droits de cotisation au CELIAP. Il faut que le compte soit ouvert. Tant que je n'ai pas ouvert de compte CELIAP, je n'accumule pas de droits. Donc, la première année que je rouvre le compte, c'est 8 000 $ par année, le maximum. Je ne peux que reporter 8 000 à la fois. Donc, je peux jamais cotiser plus que 16 000 dans une année donnée. Donc, si j'ai ouvert le compte l'année passée, j'ai mis une pièce juste pour dire que je rouvre le compte, mettons, j'aurais le droit de mettre 16 000 maintenant, donc 8 000 pour l'année passée, puis bon, 7, 9, 9, 9 là, pour l'année en cours, là, comme j'aurais mis 1 $. Plafond à vie, 40 000. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement 5 fois 8 000. Là. Ça peut être 10 fois 4 000, s'il faut le dire. On a le droit de se rendre jusqu'à 40 000 de cotisation.
Puis 40 000 de cotisation, la valeur peut être plus
élevée. Donc, on vous rappelle, le CELIAP, c'est comme si le REER et le CELI avaient eu un enfant. Donc, les cotisations qu'on va cotiser dans le CELIAP sont déductibles d'impôts comme un REER. Par contre, quand je vais retirer l'argent pour l'achat d'une maison, ce ne sera pas imposable comme le CELI. Et ce n'est pas un RAP non plus. On vous rappelle, là, le régime d'accès à la propriété continue d'exister où là, on emprunte de son propre REER et on doit le rembourser à notre REER. Dans le cas du CELIAP, c'est carrément un cadeau du gouvernement. On met l'argent là, on a un retour d'impôt, on retire l'argent, that's it, on a gardé le retour d'impôt. Et ça s'additionne à nos déductions REER. Donc, si je suis un jeune, puis que je veux déduire un peu de mon revenu, j'ai le choix entre mettre un peu d'argent dans mon CELIAP ou mon REER, mettez-le dans le CELIAP. Tu sais, c'est le garder les...
Jeune et moins jeune. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu de propriété et puis qui veulent mettre de l'argent, ou ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas eu de propriété. Il y a une limite là-dessus.
Ouais.
Appelez-nous, parlez-nous.
Si vous êtes locataire, vous n'avez aucunement l'intention d'acheter une maison, vous avez quand même le droit d'ouvrir un CELIAP et de bénéficier de déductions supplémentaires. Puis... Parce que, un, peut-être que vous allez changer d'idée dans le temps. Puis, si jamais vous achetez jamais de maison, vous pourrez retransférer ce montant-là dans le REER.
Exactement. Donc, super outil aussi. Mais merci beaucoup, Martin. On reçoit aussi beaucoup de questions également sur le décaissement. Donc, c'est le temps de l'année où les paiements FER et FRV changent. Donc, comment ça fonctionne? Parle-nous un peu des minimums FER et comment ça fonctionne aussi pour les FRV.
Oui. Donc, le FER, fonds enregistré de revenus de retraite, c'est le compte dans lequel on va verser son REER quand on atteint généralement 61 ans, mais on peut le transférer à tout moment en passant. Là, c'est obligatoire à l'âge de 71 ans, mais ça peut être fait à tout moment. Le retrait minimum, donc l'année, c'est quel âge j'ai le 1er janvier. Donc, quand j'atteins 71 ans, le 1er janvier de cette année-là, je n'avais pas 71 ans. Donc, durant l'année, j'atteins 71 ans, je transfère mon REER en FER. Et donc, là, l'année suivante, le 1er janvier, j'ai 71. Durant l'année, je vais atteindre 72. 5,28%. Donc, si j'ai 500 000 $ dans mon REER qui devient un FER, ben, l'année prochaine, je devrais retirer là, 25 000, 26 000 $ de mon FER. Le montant, il est pleinement imposable comme un revenu. Donc, il n'y a pas nécessairement d'impôt de retenue à la source. C'est possible d'en faire retenir à la source, mais c'est néanmoins un montant qui est évidemment imposable. Le chiffre de 5,28, en fait, c'est un calcul mathématique. Là. C'est 1 divisé par 90 moins votre âge. Fait que si vous voulez savoir c'est quoi mon année, bon, c'est l'âge au 1er janvier. 1 divisé par 90 moins mon âge, c'est ça le montant.
Ou vous pouvez le mettre dans le chat GPT. Puis il va vous
ça faire. Fonctionne aussi. Donc, le pourcentage de retrait augmente là, à chaque année. 5,28, l'année d'après 5,40 et ainsi de suite. Donc, bien souvent, en début de retraite, ben, c'est pas rare de voir les rendements des portefeuilles qui sont un petit peu plus élevés que le retrait du FER. Donc, des fois, on voit le compte augmenter quand même, là, même si on fait des retraits. Puis là, quand on arrive là, à 80 ans, ben, 6,8%, là, ça commence à être tranquillement un petit peu plus difficile là, de battre ce rendement-là puis de voir le compte monter. Quand on a 90 ans, ben là, il faut retirer comme 20 % du compte par année. Fait que ça va...
C'est ça. Donc, c'est normal de voir son FER baisser à un moment donné.
Ça fait partie de la game. Là. Le gouvernement vous a donné un rabais d'impôt au moment de cotiser. Ben là, il aimerait bien ça vous imposer au moment du retrait. Dans le fond, le REER, ce qu'il faut se rappeler, ce n'est pas un véhicule pour sauver de l'impôt. C'est un véhicule pour reporter l'impôt. Et le gain se fait quand notre taux d'impôt au moment de cotiser est plus élevé que le taux au moment du retrait.
Et est-ce que tu peux nous parler de FRV un peu?
FRV, fonds de revenus viagers. Donc, il y a plein de clients qui ont travaillé pour un employeur. Il y avait un fonds de pension avec l'employeur. Ils ont quitté. Ils se sont fait offrir de soit garder la pension là-bas puis de la collecter à 65 ans ou de partir avec l'argent. Ils ont déposé ça dans un CRI ou un compte de retraite immobilisé. Quand on arrive à 71 ans, on doit transférer ça en FRV. C'est un peu comme le fer, là. C'est un peu le pendant du fer. Avant, on avait un retrait maximum. Ce n'est plus le cas pour les FRV de juridiction québécoise. Donc, on peut retirer le montant qu'on veut. Il y a quand même un retrait maximum viager qui est calculé. Donc, il y a un calcul qui se fait pour assurer la pérennité du compte jusqu'à 95 ans. Donc, on va vous, entre guillemets, vous suggérer un maximum. En réalité, on a le droit de retirer le compte au complet si on veut, mais le calcul est fait là, pour aider les gens qui veulent s'assurer qu'il y a de l'argent là, jusqu'à 95 ans.
Puis pour les gens qui ont travaillé pour des organismes qui sont fédérales, il y a encore des limites maximum.
Il y a encore le montant de retrait maximum à chaque année. On peut débloquer la moitié du compte quand c'est un CRI fédéral, ainsi de suite. Donc, les règles sont un petit peu plus compliquées pour les CRI et FRV fédéraux. C'est principalement ce qu'on voit là. On a quelques clients qui ont des Ontario et d'autres provinces, là, mais c'est du Québec, puis généralement Québec puis fédéral qu'on voit. Donc, plus de maximum sur les FRV québécois.
Bien, merci pour le rappel. Avant de conclure, souhaites-tu ajouter comme quelques chiffres pour 2026?
Ou bien, quelques chiffres. Donc, le chiffre magique, là, tu sais, on parle de la petite paye puis de la grosse paye. Là. Donc, c'est quoi la différence? Bien, généralement, durant l'année, on atteint le MGA, le maximum des gains œuvrant droit à pension. Donc, c'est le montant sur lequel est basé le maximum de la RRQ. Donc, hein, on sait, à chaque mois, là, à chaque paye, on se fait déduire d'un montant pour cotiser à la RRQ. Puis quand on a atteint le maximum, on arrête de cotiser. Puis là, notre salaire net augmente, puis on est bien content. Donc, le maximum cette année pour le montant de base, 74 600. Et puis le montant avec le supplément, donc on a introduit là, il y a quelques années un montant supplémentaire de la RRQ pour les salariés un peu plus haut, donc 85 000. Donc, si quand j'aurai gagné plus que 85 000, on arrête de cotiser à la RRQ. Autre chiffre, les taux d'impôt. Donc, au fédéral, on a baissé le taux d'impôt minimum de la première braquette d'impôt. Donc, le premier taux d'impôt au fédéral, c'est 14 % s'applique jusqu'à 58 523. À quel chiffre atteint-on le plus haut taux d'imposition? Combien faut que je gagne en 2026 pour être à la braquette supérieure? 258 482 au fédéral. 33 % d'impôt au fédéral. Puis au Québec, le taux maximum est atteint à 129 590. Fait que c'est pas très élevé, là, 129 000 pour être à la braquette supérieure. Ça fait quand même un taux d'impôt combiné, là, quasiment à 58 % pour le dollar qui est en haut de 258 000. C'est ça qui est ça. Ceci dit, l'exemption de base, donc au fédéral, en 2026, le premier 16 452 entre guillemets, n'est pas imposable. C'est-à-dire qu'on a un crédit d'impôt sur le premier 16 400 qu'on gagne, ce qui fait qu'on n'est pas imposable sur ce premier montant-là. Donc, c'est le chiffre à garder en tête. Là. Si je fais 16 000, ben, je ne paye pas d'impôt. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je ne paye pas d'impôt.
Bien, puis n'hésitez pas à nous le demander. Nous, on regarde ça souvent pour nos clients. Et c'est clairement vraiment de l'information qui est utile pour les retraités ainsi que les pré-retraités. As-tu un dernier petit conseil à donner à nos auditeurs?
Bien, que ce soit REER, CELI, CELIAP, FER, FRV, peu importe, c'est au début de l'année, c'est le bon moment pour planifier les cotisations, peut-être valider la capacité de décaissement. C'est sûr qu'il y a un peu un goulot d'étranglement, là, on veut faire beaucoup en début d'année, mais c'est le bon temps de le faire. Donc, tu sais, oui, planifions l'année comme il faut. Puis, il y a quand même la date limite du 2 mars. Là, donc, tu sais, le REER, on n'a pas le choix de régler ça là. C'est le 2 mars que ça se passe. Ajuster le portefeuille en fonction de ses besoins. Donc, si on prévoit, par exemple, commencer à décaisser puis qu'on a un portefeuille 100 % en action, ben, peut-être que ce serait le temps de mettre un petit peu de revenu fixe ou tu sais, de s'assurer, est-ce que j'ai un montant qui vient échéance cette année duquel je pourrais piger pour assurer que si le marché est volatile, ben, je ne suis pas en train de vendre des titres à perte pour faire mon retrait. Donc, toujours une bonne idée là, de revoir le portefeuille dans son ensemble en fonction de, pas juste du marché, mais de mes besoins spécifiques de décaissement puis de planification.
Puis on communique avec vous et c'est exactement à ce moment-là ou même proactivement, vous pouvez nous appeler pour dire « Hey, j'ai un projet de rénovation de ma cuisine » et nous, on va mettre l'argent de côté à l'abri de tous les soubresauts possibles.
Absolument.
Bien, merci beaucoup, Martin, à nos auditeurs. Si vous avez des questions ou vous souhaitez discuter de votre portefeuille ou de votre stratégie de gestion de patrimoine, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi sommes là pour vous accompagner. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À l'écoute des investisseurs.